Ayant été formé pendant quelques années par le père Placide, donc ayant hérité un peu de son esprit ou de certains aspects de son esprit, j'ai voulu poursuivre certaines choses qu'il m'avait inculquées, pensant que j'étais juste, et ces choses que je vais vous nommer après, et ces choses étaient suffisamment importantes pour qu'elles nous aient amené à découvrir, à aimer et à adopter la Sainte Église orthodoxe. Donc vous êtes aussi les bénéficiaires. Mais cet aspect-là de la vie ou des idées de Père Placide s'est heurté à un échec qui fait qu'il a de facto abandonné la lutte sur ces points-là à la fin de sa vie. Et je pense que je suis un de ses disciples, en ce sens que, ayant voulu reprendre le flambeau, pensant que c'était la vérité, j'ai l'impression de m'être heurté au même échec, et personne d'entre vous n'est visé. Croyez-le bien, ce serait la preuve du contraire. Je vise par là l'intuition qu'il avait depuis sa jeunesse, que les mots ont un sens et que les traductions, qui sont toujours une analyse, une interprétation d'un texte, ont aussi leur importance et révèle tout un esprit. Mais ce qui fait que pour les choses saintes, les saintes écritures, la tradition la tradition et la traduction des offices liturgiques, essentiellement la liturgie, suivant l'interprétation, suivant le mot que l'on choisit pour traduire en français des termes grecs ou slaves, peut faire que le texte en traduit peut devenir ou quelque chose de purement horizontal, de purement moral, de purement humain, si vous voulez, ou au contraire révéler la vie de l'au-delà. Les mots sont comme une icône. Les mots montrent, rendent audibles des notions, appelons-les des notions, si vous voulez. C'est pas le mot juste, mais je trouve pas le juste mot, qui révèlent une expérience de l'au-delà, une expérience de la présence de Dieu, de la révélation de Dieu parmi les hommes, d'où, d'après Père Placide, et ce que je voudrais reprendre, l'importance de trouver le mot juste. Ça, c'est d'une manière générale. Et je dois vous dire ma souffrance dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome ou de voir, chez nous, j'essaie de respecter justement quelques nuances près que j'ai jamais pu, soit par indigence personnelle, soit parce que ce n'était pas reçu ou critiqué, points de détail, si je puis dire, qui n'ont pas pu passer dans les mœurs, mais dans l'ensemble, j'essaie de garder cette tradition-là, ces traductions-là. Et ce qui me fait vous dire ça aujourd'hui, c'est que nous en avons un exemple flagrant dans l'évangile de ce jour. Nous avons lu tout à l'heure dans l'évangile de la liturgie, quand Jean a été arrêté, à ce moment-là, Jésus s'est mis à prêcher à son tour. La fin de la phrase, là, c'est moi qui l'invente, qui vous la restitue comme ça, mais les premiers termes, c'est « quand Jean a été arrêté ». Oui, c'est juste. Il a été arrêté, il a été mis en prison, il a été décapité, comme tout le monde le sait, enfin, comme vous le savez, en tout cas. Mais quelle indigence dans cette traduction-là. Le terme normal, c'est « quand Jean fut livré ». Ah, c'est un autre sens. C'est un autre sens. Ça signifie, historiquement, si je puis dire, la même chose, être livré ou être arrêté, kiff kiff. Mais quand il fut livré, de fait, c'est le même vocabulaire, la même expression qui est attribuée au Christ, qui fut livré, et qui, avant d'être livré, pierre du pain dans ses mains saintes, pur immaculé, etc. Être livré, c'est être, non pas être seulement arrêté par des soldats, mais c'est être livré au pouvoir des hommes. Donc, il y a une notion d'obéissance, une notion de rédemption derrière ça. Et si on avait voulu avoir comprendre convenablement l'évangile d'aujourd'hui, il aurait fallu dire quand Jean a été livré à ce moment-là. Ce qui montrait que Saint Jean, qui est le dernier des prophètes, par sa vie, n'a pas été prophète simplement en proclamant l'évangile, en prenant la bonne nouvelle, l'annonce de la bonne nouvelle, mais que c'est par sa vie même, en étant comme le Christ livré au pouvoir humain jusqu'au martyr. C'est par sa vie qu'il était prophète. Ça, c'est un exemple, mais c'est 100 fois par jour qu'on peut trouver ces choses-là. Mais nous sommes dans un monde, dans notre monde contemporain, dans le monde contemporain, où on préfère lire les Écritures comme une histoire, comme quelque chose d'humain, comme un récit historique. C'est dommage, parce que dans ce cas-là, on se coupe de la révélation. On se coupe de l'annonce et de la possibilité d'être en communion avec la réalité théologique que le Seigneur est venu nous apporter. À cause, on ne peut pas comprendre la portée des Écritures. On n'entre pas dans le mystère de la révélation de Dieu parmi nous. Et à cause de ça, il n'y a pas de salut conscient. J'espère que Dieu nous offre quand même. Mais on n'a pas cette joie de savoir où on est, de savoir que nous sommes déjà dans le royaume des cieux, que nous sommes en communion avec Dieu. Il faudrait que je vous trouve beaucoup d'autres exemples pour que vous compreniez, mais j'essaie de vous en donner la signification aujourd'hui. Et ça, c'est un échec. C'est un échec qui ne peut que qui conduit à la, comment dire, à la non-réception du message évangélique. Donc, à la perte de l'Église, à l'effacement de l'Église. Qui va à l'opposé de la fin de l'Évangile que nous avons entendu, le même Évangile, où, après qu'il fut décapité, que Saint Jean, on va dire, ça a été décapité, à ce moment-là, le Christ s'est mis à prêcher. Vous pouvez remarquer que tant que Jean-Baptiste prêchait, le Christ, lui, se taisait. Il laissait la préparation se faire. Et simplement, quand Jean-Baptiste s'est tu, parce qu'il n'avait plus de tête, à ce moment-là, le Christ a repris le flambeau pour le parfaire, pour l'amener à sa perfection. Et la première chose qu'il est dite, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Exactement ce qui était l'essence de la prédication de Jean-Baptiste. On voit qu'il reprend les prophéties de l'Ancien Testament et se les attribue. Et les amène comme ça à leur perfection. Comment il les attribue? Comment il attribue ce... Il s'attribue ce passage-là. Saint Jean disait, le royaume des cieux est proche. Le Christ reprend, le royaume des cieux est proche. Évidemment qu'il est proche. Et il est proche de plusieurs manières. Il est proche parce que dans le temps, c'est-à-dire dans la notion du temps, le royaume des cieux arrive. Donc il est proche. Il faut se préparer à cela. C'était déjà ce que disait Saint Jean-Baptiste. Mais avec le Christ, ça prend une dimension autrement plus urgente. Par ailleurs, il nous dit, c'est tout le thème de l'heure, que l'heure n'est pas encore venue, ou maintenant voici l'heure, que l'on trouve à plusieurs reprises dans les évangiles. L'heure du Seigneur, le temps du Seigneur est de plus en plus immédiat. C'est maintenant. Et si le royaume des cieux est proche, c'est parce que non seulement le temps se raccourcit qui nous sépare de la seconde parousie, de la fin des temps, non seulement parce que le Christ commence cette nouvelle ère, la dernière de la transfiguration du cosmos par sa venue, par son incarnation, par son respect, le fait qu'il ait assumé les lois humaines et qu'il s'est plongé lui-même dans les éléments cosmiques par sa descente. Symbolisé par sa descente dans l'eau du Jourdain qu'il a transfiguré avec tout le cosmos. Le temps donc est arrivé. Et il dit le royaume de Dieu est proche, et par ailleurs on voit il est au-dedans de vous. Il est tellement proche que dans l'Ancien Testament, on l'attendait. Rappelez-vous Abraham, Isaac, Jacob et les autres qui attendaient toujours la venue du Messie. Mais depuis Jean-Baptiste, le Messie, il est là, il est à côté de nous. Mais il est encore plus proche de ça, puisque le royaume des cieux, c'est le Christ. C'est le Christ en ce sens que quand nous sommes unis à lui, quand nous sommes les membres de son corps, à ce moment, nous sommes déifiés. Et le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le ciel, les cieux, tout ça c'est synonyme, c'est la vie divine même. Donc, si le royaume des cieux est proche, il est d'autant de nous, c'est que nous sommes déjà déifiés, nous sommes déjà unis à Dieu. Il est proche. Non seulement parce que nous attendons de manière de plus en plus urgente la fin des temps annoncée, d'une manière fulgurante dans le livre de l'Apocalypse, mais non seulement nous attendons la fin des temps, mais la fin des temps, elle est pour chacun de nous aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le Christ nous apparaît, c'est aujourd'hui que le Christ nous assimile en lui. Et il ne faut pas louper le rendez-vous. Le Seigneur, liturgiquement, on dit, il a incliné les cieux, il est descendu. Les cieux étant pas le lieu au-delà des nuages. Les cieux étant cette dimension de l'existence qui est immatérielle, réelle, mais invisible. Dans laquelle nous vivons, qui est aussi notre condition. Et par ce temps proche, nous participons en Christ à la vie éternelle. Et pas simplement en promesse après notre mort, mais aujourd'hui même. Et si le Seigneur a incliné les cieux et est descendu sur terre, s'il a ouvert en quelque sorte cette invisibilité de l'au-delà par sa présence, s'il s'est, je vais être trivial, le terme n'est pas juste, n'est pas évangélique, mais s'il s'est fatigué à descendre sur terre, le terme n'est pas aussi insolite que ça. C'est pas tant une fatigue, sauf que s'il a travaillé, s'il a œuvré pour descendre sur terre, s'il a eu l'humilité de renoncer à l'exercice de sa gloire en tant que Dieu pour assumer notre condition humaine dans ce qu'elle a de pire, dans ce qu'elle a de déchu, c'est une insulte que de passer à côté de cela et de ne pas lui rendre l'appareil. C'est une insulte de ne pas renoncer, de ne pas entrer dans notre kénose, de ne pas renoncer à notre moi et de nous enfermer dans notre égoïsme en passant à côté du rendez-vous que nous donne le Seigneur. Lui, Dieu, vient vers nous et nous, on ne lui répondrait pas, on ne viendrait pas vers lui. Il nous donne rendez-vous et souvent, on dit, tu ne m'intéresses pas, je n'ai pas le temps aujourd'hui. J'ai des bœufs à essayer, j'ai une femme à prendre. Je ne me rappelle plus des autres exemples qu'il donne dans l'Évangile. J'ai une terre qu'il faut que j'aille voir, etc. etc. Et ça, c'est ce que nous faisons lorsque nous loupons nos rendez-vous avec Dieu dans la prière. Dieu est proche. Le royaume des cieux est proche, il est au-dedans de nous. On ne peut le découvrir que par la prière. Elle est facile, la prière. C'est notre respiration même. Simplement, il faut passer du temps. C'est-à-dire, il faut consacrer du temps qu'on pourrait prendre pour autre chose, pour aller voir sa terre, pour prendre sa femme. Je me rappelle quel autre exemple je vous ai donné tout de suite, suivant l'Évangile. Pardon. C'est ce qu'on fait quand on a ces fêtes liturgiques comme celles qu'on vient de passer et qui ponctuent toute la vie, les cycles annuels ou hebdomadaires. Et à chaque fois, ce sont des rendez-vous que le Seigneur nous donne. Il se déplace, il s'humilie venir. Donc, sauf raison majeure, c'est-à-dire incapacité de se déplacer à cause de la distance ou à cause de notre état de santé, les rendez-vous avec Dieu sont indispensables. C'est l'insulter que de ne pas d'en faire l'économie. Et à ce moment-là, on passe à côté du royaume des cieux. Dieu incline les cieux pour les mettre à notre portée. Et nous, on les dédaigne et on ne monte pas, justement, on n'accepte pas, on ne prend pas la présence de Dieu. Et on ne peut pas prétendre acquérir, mais le mot n'est pas juste, mais on ne peut pas acquérir le salut, je le prends intentionnellement quand même, c'est-à-dire on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux si on passe à côté de ces rendez-vous. On ne peut pas dédaigner Dieu, on ne peut pas l'abandonner, on ne peut pas l'ignorer. Le Seigneur se montre à nous, il se fait sentir, mais il faut encore d'une part, que nous ayons le désir, la volonté de le sentir, mais que nous fassions aussi l'effort de le rencontrer. Et ce n'est pas une question morale, ce n'est pas une question de faire ses prières, ce n'est pas une question d'assister à la messe le dimanche, ce n'est pas une question morale. C'est une question ontologique. C'est une question la plus fondamentale qui soit. Même si vous êtes en piscine et que vous allez nager, même si votre tête est enfouie sous 10 cm d'eau quand vous faites du crawl, il y a des moments où vous relevez la tête et la bouche de manière à avaler un bol d'air, pas un bol d'eau, un bol d'air. Et il faut absolument prendre une respiration. Et nos rendez-vous avec le Seigneur sont ce bol d'air qui nous permet de vivre. On s'asphyxie dans notre monde. On s'asphyxie parce que la vie n'est pas dans le monde. Il est normal qu'on assume ce monde, mais si on ne prend pas le bol d'air de la vie éternelle, on ne peut pas vivre. Ce n'est pas une question de devoir, c'est vraiment une question de survie. Et cette survie-là nous amène non pas à surnager, mais nous amène à accéder à une autre dimension de la vie. Et une dimension qui, elle, est éternelle. Alors que notre simple respiration physique, je puis dire, un jour ou l'autre va s'arrêter. Mais il y a une autre respiration qui est celle de l'Esprit-Saint en nous, qui dure éternellement et qu'on peut connaître déjà aujourd'hui. C'est pour ça il faut prier, il faut être assidu à l'église. Plus la fête est grande, plus on a l'exigence, non pas morale, mais profonde, vitale, d'y participer. Pour cela, justement. Non seulement pour apprendre intellectuellement la signification des fêtes ou des saintes écritures, comme j'essayais de vous montrer tout à fait au début de mon discours que je ne pensais pas vous faire, je n'ai pas d'autre mot que de vous dire c'est vital. Et si on se lamente sur l'état de notre monde à tout point de vue, économique, moral, pacifique, on peut utiliser encore ce mot-là, et beaucoup d'autres choses, la seule solution, c'est d'en sortir par le haut. C'est-à-dire, puisque les cieux ont été inclinés, nous prendre ce pan incliné pour nous élever, nous au contraire, puisqu'il vient nous prendre. Sinon, nous sommes responsables de la déchéance de ce monde. Et tous les sacrifices sont, comment dire, tous les sacrifices valent la peine d'être offerts pour pouvoir, chaque jour, par la prière, chaque semaine par la liturgie, ou si possible chaque jour par la liturgie, chaque fête, tout sacrifice vaut la peine d'être fait pour participer à cela, parce que c'est une participation vraiment à la vie éternelle. Si on ne le fait pas, le jour de notre mort, on se retrouvera étonné. Tiens, c'est ce jour-là, on ne sera pas préparé. Et on ne pourra pas entrer de plein pied, je peux dire, dans le royaume de Suisse. Il sera trop tard. Rappelez-vous, c'est pas moi qui l'invente, rappelez-vous la parabole des vierges sages et des vierges folles. C'est pas simplement une parabole pour nous inciter à croire, tout simplement. C'est pas pour croire, c'est vraiment pour vivre. Si on n'entre pas dans la chambre nuptiale, si on n'entre pas avec l'époux, on est mort. Et il ne s'agit pas, je ne prêche pas pour que tous vivent en moine théorique, C'est-à-dire, quand j'appelle moine théorique, je veux dire de l'idéal du moine que peu accomplissons. C'est pas une vocation spéciale, c'est la vocation de tout homme et notamment de tout chrétien de connaître la vie éternelle, d'entrer dedans à travers la consécration de notre temps par la prière. Je ne demande à personne ici de vivre 24 heures sur 24 et tous les jours, surtout les années bissextiles comme cette année, en permanence dans la prière verbale, mais d'avoir suffisamment de prières verbales dans la journée pour que toute la journée soit illuminée par cette prière qui se répercute dans ton vie et qui se monnaie à chaque minute. Il n'est pas possible d'apprendre à aimer l'autre. Il n'est pas possible d'apprendre la patience. Il n'est pas possible d'apprendre le respect de l'autre sans renoncement à soi-même et sans kénose, si vous voulez, et sans réception de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, on le reçoit justement pendant notre prière. Et c'est pas parce que dans la prière on est assailli par le sommeil ou qu'on s'endort réellement, c'est pas parce qu'on a des distractions qu'on pense à autre chose, c'est pas pour autant que notre prière n'est pas valable. Ce qui est important, c'est la consécration du temps que l'on a offert à Dieu. Évidemment, il y a une lutte indispensable contre le sommeil ou contre les pensées, surtout les mauvaises, mais même les bonnes, de manière à essayer de n'être que dans ce royaume si proche. Mais nous assumons aussi notre nature, la lourdeur de notre nature, et on se heurte à notre fatigue, aux films de notre tête, de notre cerveau. Mais ça, on l'assume. Et le fait d'entrer en prière, Dieu petit à petit nous permet d'entrer dans le mystère de la conversion. Convertissez-vous quand le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux nous est donné, mais il faut encore que nous l'acceptions, il faut encore que nous le recevions. D'où le convertissez-vous. Et le convertissez-vous, ça ne veut pas dire convertissez-vous du paganisme au christianisme, ni de je ne sais quelle déclinaison du christianisme vers l'orthodoxie. La conversion, ce n'est pas ça. La conversion, c'est apprendre à vivre, non pas d'une manière seulement physique, psychique, morale, disons humaine, si vous voulez, mais d'une manière spirituelle, encore que mon vocabulaire n'est pas juste, parce que vivre d'une manière spirituelle, c'est vivre justement d'une manière humaine, la plus humaine qui soit, puisque nous avons été créés pour ça. Voilà. Les premières années de notre monastère, il y en a peu qui peuvent s'en rappeler, mais les sœurs s'en souviennent bien. Nous avions eu à faire une conversion où, pour Noël par exemple, on se trouvait, il n'y avait personne qui venait aux offices parce qu'il y avait le réveillon, il y avait la fête de famille, il y avait beau papa et belle maman qui venaient, etc. Et petit à petit, assez rapidement d'ailleurs, parce qu'on avait mis des formes pas violentes mais sérieuses, on avait essayé de montrer que Noël n'était pas simplement la distribution des cadeaux, et la nouvelle année simplement les souhaits de bonne santé. Et petit à petit, les gens dont vous êtes héritier ont appris pour les fêtes à venir et de décaler les manifestations affectives et familiales à un autre moment, de manière à privilégier ce rendez-vous avec Dieu. Et ça, c'était beau. Et pour la plupart, vous le faites encore et faites-le plus que jamais. Et nous ne savons pas ce que historiquement ou physiquement, physiquement, l'avenir nous réserve. Mais nous n'allons pas vers des temps faciles. Au contraire, et vous ne savez pas si vous aurez toujours un monastère à côté de vous, ni même vous aurez toujours une église à côté de vous. Vous ne savez pas si vous aurez toujours un prêtre auprès de vous. Mais le royaume des cieux, lui, sera toujours auprès de vous. Et quelles que soient les conditions extérieures, celles que je viens de décrire en résumé, quelles que soient ces conditions-là, le royaume des cieux sera toujours là. Donc la force, l'énergie que vous pouvez mettre aujourd'hui à chercher ce royaume des cieux conditionne la force que vous aurez quand vous serez dans un désert plus grand, si désert il y a, quand vous serez dans un désert plus grand, ça conditionne la vigueur avec laquelle vous trouverez quand même dans ce désert la présence de Dieu. Entrer dans ce mystère, c'est préparer l'avenir. Pas simplement préparer le royaume des cieux après notre mort, mais c'est préparer la survie de l'Église. L'Église et les monastères actuellement implosent. Numériquement se rétrécissent. Ce qui ne va pas sans poser des problèmes humains. Et aujourd'hui, on ne voit pas encore un renouveau, mais nous sommes sûrs que le Seigneur est à l'œuvre et qu'il amène à travers tout cela, qu'il amène la vie éternelle et la glorification du monde. Comme nous sommes sûrs qu'après le passage par la mort, qui humainement parlant n'est pas directement une partie de plaisir, nous sommes sûrs que ça nous amène à la résurrection. Et comment un corps qui est en train de pourrir peut-il ressusciter? Et pourtant oui. Eh bien, c'est la même chose. Si nous voyons le monde s'abîmer, se dégrader, il y a après une glorification de ce monde. Il faut le savoir, il faut y croire, mais il faut le préparer aussi. Et le préparer, c'est en nous convertissant à une autre vie, qui ne soit pas qu'une vie purement rationnelle. Et à vie rationnelle ne s'oppose pas vie irrationnelle. À rationnel s'oppose le spirituel, mais pas l'irrationnel.